Le début, c'était, je dirais, une histoire personnelle, puisque mon grand-père, en tant que militaire français, avait été déporté dans un camp disciplinaire avec 25 000 autres Français et Belges à Rawaruska, dans un petit village à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, à côté de Lvov. Et il est revenu, et lorsque j'étais enfant, il me disait souvent « Pour nous, les Français, c'était difficile. Mais à l'extérieur du camp, c'était pire. » Et ce n'est qu'à l'âge de 35 ans que j'ai compris qu'à l'extérieur du camp, en fait, c'était les Juifs. Quand le village où il avait été déporté était entièrement juif, la région aussi, elle était surnommée Yiddishland, et le surnom même de Rawaruska dans la région était Rava la Juive. Il avait ainsi vu pendant toute sa déportation, c'est-à-dire 3 années, de 1942 jusqu'à la fin de la guerre, des Juifs se faire tuer ici et là, se faire fusiller. Bien plus tard, je suis donc allé là-bas moi-même à Rawaruska avec des survivants de ce camp, et nous avons fait refaire le mémorial du camp de Rawaruska. Et puis on se disait, on pourrait peut-être faire aussi un petit mémorial pour les Juifs, car on a fusillé dans ce village 15 000 Juifs. C'est un petit village aujourd'hui de 8 000, 9 000 habitants. Et le maire, qui était alors un maire soviétique, répondait, je ne sais pas où c'est. Et je lui disais, comment c'est possible? Vous êtes 8 000 et on a fusillé 15 000 personnes. Mais c'était l'ère soviétique, c'était l'ère du silence. Et puis un autre maire a été élu. Et lui m'a dit, je vais te faire une surprise. Il m'a emmené dans un petit hameau le long d'une rivière avec une route non goudronnée, un petit hameau qui s'appelle Borové. Et là m'attendaient plus de 100 paysans âgés qui tenaient à la main une chèvre, un chien, appuyés sur des bâtons. Et tout de suite, ils se sont dirigés dans la forêt lorsque je suis descendu de la voiture. Ils se rendaient en fait sur la fosse commune des 1500 derniers juifs de Rawaruska. Eux-mêmes, en tant qu'enfants, avaient été réquisitionnés par les nazis pour jeter de la cendre et du sable sur le sang qui coulait de la fosse. Et ils se sont mis à raconter ça l'un après l'autre, à témoigner dans la forêt. J'étais effrayé, je découvrais en un seul jour que l'on pouvait trouver les fosses communes des Juifs, qu'elles n'étaient pas secrètes. Deuxièmement, que les Juifs avaient été assassinés en public par les forces du Troisième Reich. Et troisièmement, qu'ils forçaient des petits-enfants ukrainiens à faire tous les petits travaux ce jour-là.
Est-ce que le fait d'être prêtre vous a-t-il un peu plus poussé à mener ce travail de recherche?
Oui, être prêtre aussi, je dirais, être sensible au fait, nos frères juifs, comme disait le pape Jean-Paul II dans la synagogue en 1986, nos frères aînés dans la foi, finalement, à l'Est, demeurent sans tombe. Ils ont été fusillés derrière des fourrés, derrière la mairie, n'importe où, et que jusqu'à aujourd'hui, la plupart d'entre eux n'ont jamais été enterrés. Et d'autre part, je dirais, le fait d'être prêtre aussi me donne un accès facile. Les prêtres même d'Ukraine, qu'ils soient catholiques, gréco-catholiques ou bien orthodoxes, m'accueillent toujours très bien, très simplement. Pour eux, ça leur semble naturel qu'enfin, la population du village qui était juive ait une tombe. Car jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas eu de tombe. Et puis je dirais aussi, quand j'entre chez les témoins, que j'interroge pour savoir ce qui s'est passé, très clairement, ils sentent que je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour porter un élément de justice. Au contraire, je suis là pour comprendre ce qui s'est passé, écouter, garder la mémoire et la transmettre aux futures générations. Sur le plan humain, cela en apprend long sur le péché, car des jeunes hommes venus d'Allemagne ou d'Autriche arrivaient au petit matin, à 5 heures du matin, dans le village, l'encerclaient, disaient que les gens allaient être déportés en Palestine, et puis le soir, toute la population était jetée, vivante ou morte, dans des fosses communes et étouffée pendant 3 jours. Et je dirais, ces jeunes Allemands ou Autrichiens que l'on voit en photo, dans des photos d'archives, sont tout à fait comme des jeunes d'aujourd'hui. C'est dire que la conscience humaine est fragile, que le péché de l'antisémitisme et du racisme est un péché lourd qui peut détruire les consciences totalement. Donc je dirais la première chose, c'est ne pas sous-estimer la force du péché. Et puis, cela ne peut que renforcer, lorsque l'on est prêtre, notre face-à-face avec le Créateur et notre intercession, je dirais, dans la foi, pour cette humanité, y compris pour la mienne.
Est-ce que ça vous a aidé aussi à mieux exercer votre magistère de prêtre?
Oui, dans le sens que cela demande une qualité d'écoute très forte. Vous savez, lorsque l'on entre dans une famille et que la grand-mère a été violée, qu'ils ont tué une petite enfant juive contre la porte de la cuisine, et une qualité d'écoute, une qualité, je dirais, d'accueil des gens avec toute la souffrance, et surtout des pauvres gens. Vous savez, c'est surtout les pauvres qui nous parlent en Ukraine. Le cardinal Lustiger disait toujours « La vérité de la Shoah à l'Est réside dans la conscience des pauvres ». Et je dirais, écouter les pauvres et apprendre finalement sur la grande histoire. Je dirais, ça me donne aussi, lorsque je vois des pauvres gens ici et là, en France ou ailleurs, je dirais une attention particulière et une écoute de ce qu'ils portent et l'accueillir, je dirais, en tant que croyant, que prêtre.
Être confronté à l'horreur comme ça, même à 60 années, un petit peu plus de 60 ans d'intervalle, par le biais de témoins, ça doit quand même vous bouleverser, ça doit quand même vous avoir un peu transformé. On n'en sort pas indemne d'une telle confrontation.
Oui, on en sort. C'est surtout très choquant lorsqu'il raconte la mort d'un ami. Par exemple, une jeune fille qui s'appelait Anna, qui était ukrainienne, elle s'était enfermée dans une grange et à travers les fentes des planches, elle regardait l'assassinat des Juifs et tout d'un coup, elle voit son ami d'enfance qui arrive tout nu avec toute la famille. Et son ami d'enfance voit qu'elle est là et se retourne et lui dit « Adieu la vie ». Vous savez, 60 ans après, elle se souvenait encore des dernières paroles de son ami avant de mourir. Bien, je dirais, toute cette l'horreur, c'est comme, je dirais, un feu qu'il faut traverser dans ce cas-là pour percevoir la souffrance des autres, les accompagner. Et je dirais, franchement, effectivement, comme vous le dites, cela nous transforme dans le sens que je n'imaginais pas qu'il puisse y avoir eu une horreur pareille sur la Terre. Cela me laisse à penser ce qu'il y a comme horreur dans les autres génocides qu'il y a eu sur Terre, que ce soit au Cambodge, au Rwanda, car malheureusement depuis, il y a eu d'autres génocides.